Vous écoutez
RMC. RMC. Jusqu'à midi.
Quand tu, après, regardes par exemple un match de foot en ayant fait des échecs, tu comprends à quel point aussi, par exemple, le foot, ce sont des échecs.
Les grandes gueules du sport.
François Pinet.
C'est étonnant que vous ne voyez pas ça, les grandes gueules. C'est fou. Marc Mathieu, Marion Bartoli, Sarah Pitkowski, Ludovic Duchesne.
Marion va le reprendre dans son émission, je pense. Non,
hein, vous ça. Inquiétez pas, c'est Jean-Christophe Drouet qui revient la semaine prochaine. Voilà, je vous rassure. Les grandes gueules du sport. Mais lui, il va vous parler de golf. C'est pas pareil. Les grandes gueules du sport qui sont à retrouver, vous le savez, tous les jours en podcast. D'ailleurs, si vous vous réveillez que maintenant, eh bien, réécoutez le podcast. On a parlé du foot avec cette question. Est-ce qu'il va dans le mur à 9h? C'est à retrouver dès maintenant sur l'appli RMC, puis plein d'autres infos dans le zapping. Dans une heure, les grandes gueules qui passent la seconde, on va se plonger avec envie dans l'année 2025. La saison de vélo va bientôt reprendre. Mais est-ce que ce sera une grande année pour le cyclisme français? 32-16 pour nous rejoindre dès maintenant. Et puis au programme également, la punchline signée aujourd'hui Nikolaï Davydenko, l'ancien tennisman qui trouve injuste l'égalité salariale entre les joueurs et les joueuses de tennis. Ce sera dans 30 minutes. Et à 10h45, les GG contre-attaque. Vous le savez, les GG ont un débat à vous proposer. C'est à vous de choisir. Et c'est le moment de nous proposer vos débats, les amis, ou de ressortir du frigo les vieux débats. Sarah Pitkowski.
Oui, parce que je souhaite enfoncer le clou. Hein. Alors moi, je veux toujours vous parler de Martin Fourcade, qui devient aujourd'hui le sportif français ayant le plus de médailles d'or, puisqu'il vient d'en récupérer une sixième.
Voilà.
Mais c'est pas tant sur la sixième médaille, c'est surtout la perception qu'il a de recevoir cette sixième médaille des années après, puisque c'est 14 ans. Et il trouve qu'elle a un petit goût amer et qu'il a l'impression de l'avoir gagnée sur son canapé.
Oui. Mais alors, tu vas gagner alors qu'hier t'as perdu. Mais bon, c'est bien.
Bah, peut-être que tu vois, il y a un moment de digestion.
Pourquoi pas, hein, elle retente sa chance.
Oui.
Donnez la
échec,
chance.
Donc.
Donnez la chance à ça. Bah, Ludovic, vas-y. Toi, tu as gagné hier les contre-attaques.
Alors, je retente ma chance avec la première fortune de France. C'est Bernard Arnault qui se lance dans le football. Et pas n'importe où, puisqu'il a choisi un autre club parisien.
Alors, ça, on le savait,
ça fait tellement longtemps qu'on l'attend. Donc, est-ce que ce club-là peut devenir l'étendard du football français? Est-ce qu'il peut déclasser le Paris Saint-Germain, surclasser Marseille, Monaco, Lille et Lens? En tout cas, il y a beaucoup d'argent qui va être.
On peut faire un double gagnant là, Ludo, quand même.
Et que Jürgen Klopp n'est pas très loin, parce que Red Bull fait partie du projet.
On va pas faire le débat maintenant.
Ça va. C'est une minute.
Si vous voulez que l'on discute,
Jürgen Klopp, il va pas être sur. Tu vas pas voir Klopp au Stade Charletti. On va arrêter deux secondes. Oui, pas sur la pelouse, en tout cas.
Marion, ton débat pour ce matin.
Alors moi, je vais vous parler quand même de la grande nouvelle qu'il y a eu dans le tennis, puisque c'est l'association Novak Djokovic Andy Murray qui se lance dans le coaching. Est-ce que ça va marcher, surtout dès l'Open d'Australie, qui est le grand chelem que Novak a le plus gagné dans l'histoire de sa carrière tennistique? Donc, est-ce que c'est le bon duo? Comment va se comporter Andy Murray dans la boxe, qui était quand même assez colérique sur le terrain? Est-ce qu'il va être calme ou pas calme? Est-ce que Novak va oser l'insulter ou pas? Voilà, c'est un petit peu ce qui agite la planète tennis, donc j'aimerais vous parler de ce débat.
Très bien. Marc.
Alors moi, c'est un débat qui me vient.
Il vient là maintenant.
Mathieu Van Der Poel est-il bling bling? Je m'explique.
Ah.
Il se déplace sur les cyclocross en Belgique sur chaque épreuve avec une Lamborghini différente. Et là, pour la Coupe du Monde aujourd'hui.
Ah, mais il y a des sous dans le vélo.
Oui, il y a beaucoup de sous pour le cycle, pour Van Der Poel.
pour certains.
Et par exemple, aujourd'hui, il y a la Coupe du Monde à Besançon et comment se déplacer dans le jet privé. Donc, le cyclisme et Van Der Poel deviennent-ils bling-bling?
J'ai l'impression que ça vous a intéressé, les amis. Hein. Bon, vous pouvez aller voter.
Moi, avec le BFC, mais c'est intéressant quand même.
Le compte X.
Ah, mais moi, dès que tu parles d'Aventador et du Russe, tu sais tout de suite ça.
Tiens, moi, je vais aider Sarah. Je vais mettre mon vote pour Martin Fourcade. Tac. Allez, le résultat dans 45 minutes.
Ça fera 1%. Sinon, je recommence à la rentrée. Hein. Parce qu'a priori, on va pas lui enlever la sixième.
Arrêtons,
donc,
Sarah, stop.
Allez, tout de suite, c'est l'heure du bras de fer.
RMC.
À votre avis, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant?
Le bras de fer GG.
Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame?
Actuellement, City qui réalise le pire début de saison depuis l'ère Guardiola, 7e de Première Ligue avec une série d'une seule victoire lors des 13 derniers matchs, une équipe méconnaissable par rapport aux années précédentes, une équipe qui marchait sur ses adversaires, hein, vous le savez. Et dans ces cas-là, forcément, le coach est dans le viseur, même s'il s'appelle Pep Guardiola. Alors, est-ce qu'un coach comme Pep Guardiola est invirable? Dans le coin gauche, la team invirable composée de Sarah Pitkowski, Marion Bartoli et de Marc Madiot. Dans le coin droit, il est seul contre tous, mais il adore ça. Ludovic Duchesne, la team virable. Je vous donne le point sur le sondage que vous pouvez retrouver sur le compte X des Grandes Gueules du Sport. Et pour l'instant, c'est la team virable, donc Ludovic Duchesne en tête avec 53%. Face à la team invirable, 47%. Attention, vous pouvez changer la donne. Et celui qui arrive à changer la donne, bah, gagne ce bras de fer. Juste avant de vous entendre, il y a deux semaines, après la défaite face à Manchester United, Pep Guardiola a été abattu en conférence de presse au point de se remettre en question. Écoutez.
Je suis le patron, je suis le manager. Je dois trouver une solution et je n'en trouve pas. C'est un grand club et quand vous perdez 8 à 10 fois, c'est qu'il s'est passé quelque chose d'anormal. Je suis le patron, je suis le manager et je ne suis pas assez bon. C'est aussi simple que cela. Je dois trouver un moyen de leur parler, de les entraîner. Et je ne suis pas assez bon, je ne suis pas à la hauteur. C'est la vérité.
I'm not good enough. I'm not doing well. That is the truth.
Depuis cette déclaration, il y a eu une défaite contre Aston Villa, un match nul contre Leicester avant donc d'affronter un match nul contre Everton avant d'affronter Leicester. Exactement.
On peut pas avancer le match du PSG.
Oui, ça devrait être maintenant. Hein,
ça sera maintenant, ça sera pas mal.
Ouais. Ça va être intéressant d'ailleurs ce match. Justement, la team invirable, vous êtes en retard. Sarah, il faut que tu défendes ton équipe.
Invirable, je vais jouer sur la sémantique. Tout le monde finalement peut être viré.
Mais je
pense que. L'aura, le charisme de Pep Guardiola, mais surtout le palmarès qu'il a avec Manchester City, le rend invirable dans le sens où s'il sent qu'il n'a plus du tout d'impact sur son équipe, il démissionnera. Il se fera pas virer, il donnera sa démission. Je vais prendre un exemple d'un autre très grand qui a trois Ligues des Champions à son palmarès, c'est Zinedine Zidane. Quand Zidane était au Real, il n'est pas parti, on ne l'a pas viré. Il est parti de lui-même une première fois. On est venu, Florentino Pérez est venu le rechercher 10 mois après pour encore reprendre le Real. Et une deuxième fois, il est parti. C'est-à-dire que ces entraîneurs qui ont une aura et ce qu'il dit dans la presse, hein, ce mea culpa qu'il fait, et il se cache pas. Et bien pour moi le rend invirable dans le sens où si ça ne peut plus aller, il donnera sa démission et il partira par la grande porte. Mais en tout cas, il se fera pas virer comme on peut voir dans certains clubs où on t'assure que le coach sera là le lundi et le lundi soir on lui dit la porte c'est par là. Donc c'est pour ça que je me positionne dans le côté invirable. C'est lui qui prendra les devants.
Ah, d'ailleurs, il a déclaré avant le match là contre Leicester qu'il voulait continuer, hein, qu'il n'était pas prêt à lâcher les rênes du club.
Ouais. Il a prolongé. Virable par définition, oui, ça c'est indiscutable. Donc le débat, il n'est pas plié, mais presque. Évidemment qu'il peut être virable. Il est 4 fois champion de suite. Il a un palmarès exceptionnel. Moi, ça a été un très grand joueur. C'est un illustre entraîneur. Mais j'avoue qu'en ce moment, il me fait peur. Il me fait peur. Vous avez sans doute vu ses scènes d'automutilation après un match. C'était contre Feyenoord en Ligue des Champions. Il dit lui-même qu'il est seul dans la défaite.
Il
dort mal. Il mange plus léger. Une soupe le soir. Je devrais essayer. Et il a un état d'esprit mauvais. Donc ça veut dire qu'il est dans un mood extrêmement mauvais. Il prend tout sur lui. Et moi, j'avoue qu'il me fait peur. Il est vraiment dans un état d'esprit assez négatif. Il faut bien le reconnaître.
Et donc, tu penses qu'il prendra pas la décision lui-même?
Que Pep Guardiola soit passionné par le foot et qu'il vive ses matchs à 100%.
C'est plus que ça, Marion. Même.
Nous expliquer que c'est une nouveauté. On sait très bien. Et d'ailleurs, Samir Nasri l'avait parfaitement expliqué quand il avait donné un long interview, puisqu'il l'a eu en termes d'entraîneur. C'est quelqu'un qui te donne une discipline à l'entraînement et qui impose une discipline à ses joueurs comme aucun joueur l'ont vécu par aucun autre entraîneur. C'est quelqu'un, et moi je m'en suis aperçue parce que j'étais invitée par Manchester City à un moment donné, j'étais ambassadrice à leur fondation. quand tu arrives au centre d'entraînement, tu as une liste de tous les joueurs avec leur poids, parce qu'ils sont pesés tous les lundis. Si tu as deux lundis consécutifs où ils sont au-dessus du poids demandé par Pep Guardiola, ils passent leur temps à faire que des tours de terrain. Jusqu'à qu'ils atteignent leur poids,
oui, ça, alors là, qui Marion, est jugé c'est dans
par Pep Guardiola avec leur poids de forme. Avec leur poids de forme. Donc, le poids de forme d'un joueur, au départ, Guardiola, il demande 2 kilos de moins.
C'est vrai dans tous les sports.
Par rapport à leur poids de forme, déjà, il y a une discipline qui est imposée. Kevin De Bruyne ou pas Kevin De Bruyne, si tu es à un moment donné au-dessus parce que tu as eu les vacances, parce que tu t'es relâché, tu pars et tu fais ton terrain jusqu'à ce que tu arrives à ton poids de forme. C'est quelqu'un qui a un niveau, un degré d'exigence qui est absolument colossal. C'est quelqu'un qui a transformé des joueurs qui étaient normaux en des superstars. Car quand Rodri, qui est aujourd'hui Ballon d'Or, est transféré à l'Atletico, personne qui sait qui est Rodri. Aujourd'hui, il est Ballon d'Or, il a transformé un degré et il a propulsé dans une autre galaxie. La même chose pour De Bruyne. Quand De Bruyne est au départ à Manchester City, c'est un bon joueur, mais c'est pas devenu la plaque tournante comme ça a été en étant un des meilleurs joueurs du monde à un moment donné. Aujourd'hui,
oui, ils ont les moyens aussi, Guardiola,
c'est qu'il a une équipe vieillissante avec des cadres qui étaient indispensables à son système de jeu, qui n'ont plus la tête ou qui n'arrivent plus à développer le jeu qui est demandé. Et il y a eu des transferts qui ont été faits pour remplacer certains joueurs qui ont été des flops absolument monumentaux. Quand tu prends Savinho sur l'aile pour remplacer Mahrez, tu ne peux pas redemander à Savinho d'avoir le même niveau de jeu que Mahrez, c'est pas possible. Quand tu as effectivement Rodri qui se fait les croisés, qui est indisponible pour une très longue période, ça le gêne énormément. De Bruyne, il a un niveau, un degré de sa carrière où aujourd'hui il essaye de négocier un dernier gros contrat, mais il a plus la tête à jouer à City. Akanji et Stone sont des joueurs moyens et aujourd'hui on s'en rend compte. Donc sont des joueurs qui à la fois ont trop gagné à un moment donné puisqu'ils ont gagné quand même 6 premières ligues en 8 ans. Le triplé historique que fait Guardiola avec City en 2023 dans le plus grand championnat du monde qui est la première ligue, faut quand même se rendre compte de ce que ça représente avec le nombre de matchs enchaînés, arriver à garder ses joueurs comme ça au taquet pendant une saison complète, c'est énorme. Et je vous rappelle quand même que c'est quelqu'un qui était capable d'avoir le record de points de l'histoire de la Première Ligue. En 2018, il fait 100 points sur 114. C'est un entraîneur qui est au-delà quasiment du foot. C'est quelqu'un
qui mais peut-être justement
qui a inventé
ce dont tu parles,
un jeu qui est avec le tiki-taka, avec un jeu qui est développé. Bon,
après, c'est l'école
du Barça,
mais
des champions avec le Barça. C'est quelqu'un qui a gagné la Ligue des Champions avec le Barça. C'est quelqu'un qui a ramené les champions à Manchester City. mais non, mais tu peux pas dénigrer.
Non, mais c'est pas ce que je veux dire. Mais bien sûr que non.
Il est pas l'un des plus grands entraîneurs du monde.
C'est pas dénigrer.
C'est dire qu'aujourd'hui, l'exigence dont tu parles, qui est folle, qui est dingue, qui est de tous les instants et de toutes les minutes, peut-être qu'à un moment donné, ce discours-là, après tant d'années d'exigences, d'efforts qu'il réclame à tous ses joueurs, peut-être qu'à un moment donné, le message ne passe plus, tout simplement.
On a droit d'être en fin de cycle aussi.
Il y a aussi énormément de blessés. Quand tu nous parles de Rodri, effectivement, mais t'as vu l'effectif de Manchester City. Moi, c'est même pas une excuse que j'ai envie d'entendre. Ils ont un effectif tellement incroyable. Ouais. Et les joueurs qui sont sur le terrain aujourd'hui.
Ça fait 15 ans qu'il est coach, il a jamais été viré. Jamais.
Et bien justement, il y a un
début à tout. Comme si Sarah Sivo, à un moment donné, qui ne s'en sort pas, il partira tout seul.
Au pire, il partira tout seul,
il ne sera pas viré.
Au pire, il partira tout seul. Et puis l'autre problème, c'est qu'il est invirable pour une raison très simple, c'est que ça coûtera trop cher de le virer.
Le montant des indemnités, c'est énorme.
Bien sûr.
Bah oui.
Bon, après, derrière, il y a les Émirats Arabes Unis, je pense qu'ils n'ont pas de souci d'argent non plus.
Ouais,
donc
mais
je pense que ce ne sera pas un problème. Après, là où c'est compliqué peut-être, c'est que lui-même a déclaré qu'après Manchester City, il n'y aurait pas d'autre club pour lui. Donc ça veut dire que s'il prenait cette décision, ça peut être une sélection, mais j'ai l'impression qu'il arrêtera parce qu'il arrive peut-être au bout de son histoire, mais que ça veut dire qu'il arrêterait tout simplement d'entraîner. Donc c'est peut-être encore plus difficile de prendre cette décision. Peut-être qu'il va falloir forcer
à un moment donné,
le pousser et lui dire bon bah écoute, là t'es 7e de Première Ligue, le titre c'est fini, mais bien plus que ça, peut-être que demain c'est la Ligue des Champions, qui la qualification pour la Ligue des Champions qui sera terminée. Donc peut-être qu'il faut juste lui dire bah écoute,
attends,
tu vas te reposer un petit peu.
Pour moi, le club,
on va t'écarter.
J'espère que tu dis vrai pour l'élimination en Ligue des Champions. Ça voudrait dire que le PSG mais je suis pas sûr.
Ouais, Marion aussi, elle espère. Mais
pour moi,
que
le club a une confiance totale en Pep Guardiola. Et au pire, ils lui prendront d'autres joueurs. Ils feront un mercato.
C'est ce qu'il a demandé d'ailleurs. C'est ce qu'il a demandé.
Mais la dernière personne qui partira à Titi, ça sera Guardiola.
En tout cas, elle est virable.
C'est pas ce que disent tes petits camarades.
Il n'a jamais été viré.
Si,
il n'a jamais été viré d'un club. Si vraiment il voit qu'il ne s'en sort pas, il partira lui-même. Il ne sera pas viré.
Après, Après, attention, hein, parce que City, on parle de recrutement, à nouveau peut-être de mettre de l'argent. Ils sont sous surveillance de la Première Ligue. Il y a eu pas mal d'infractions. Ça bloque aussi peut-être le recrutement de City.
C'est peut-être en Angleterre.
Une fin de cycle aussi pour Manchester City.
Le procès du siècle contre la Première Ligue, qui est un procès qui peut coûter très très cher à Manchester City jusqu'à la relégation. Donc ils sont aussi sous le joug de ces menaces-là. Donc c'est vrai que c'est une année assez terrible. Et Manchester City, je veux pas dire pourrait disparaître, mais en tout cas si Manchester était relégué, oui, ça ferait du bruit.
Alors sur cette question, évidemment, un coach comme Guardiola est-il invirable? En gros, on peut l'étendre, on peut regarder aussi dans le football. Est-ce qu'il y en a beaucoup des coachs comme lui qui sont invirables? Alors toi, tu dis qu'il est virable, mais pour les autres, c'est peut-être un cas unique en fait, Guardiola dans le monde du foot et même dans le monde du sport.
Ancelotti.
Ancelotti, il a été
PSG, mais
même par le Real.
Là où il est aujourd'hui au Real, avec le palmarès qu'il a, c'est plus lui qui partira qu'il sera viré.
Ouais, au Real, ils
étaient. Et prenez l'exemple de Ferguson, puisqu'on étend à d'autres coachs. Prenez l'exemple de Ferguson, qui est resté 27 ans à Manchester United, de 2003 à 2007, il gagne pas la première ligne ni des champions. Il y a personne qui l'a viré. Il a arrêté à un moment donné, mais lui-même.
Ouais,
de 2003 à 2007, il a aucun titre. Il a fait 27 ans dans le même club.
J'aurais bien dit De Zerbi, mais je sais pas, je suis pas certain. Parce que tous les ans, ça change à Marseille.
Non, mais c'est de l'acharnement. On va quand même pas mettre De Zerbi dans la catégorie Pep Guardiola, excuse-moi.
Non, dans la catégorie de Guardiola. Il n'y en a pas.
L'OM, ça n'existe pas.
Voilà.
Bon, en tout cas, on va faire le point sur votre combat. Pour l'instant, c'est toujours la team virable qui est en tête. Hein. Bravo.
Oui, mais
ça n'a pas beaucoup bougé. 53-47. Non, ça a bougé à un moment donné. Je vous avoue, voilà.
Parce qu'en fait, il avait perdu
un petit peu, Ludo.
J'ai regagné, ouais.
Mais la team invirable a reperdu des points. On va écouter justement Pep Guardiola sur ce que je vous disais. C'était juste avant le match face à Leicester. Il est toujours dans le combat. Il a toujours envie, évidemment, de rester. Pas question pour lui, pour l'instant, de quitter le club. Écoutez-le.
Je préférerais quitter cette situation, mais c'est comme ça. J'essaye d'être le plus calme possible pour essayer de comprendre cette situation, ce qu'on peut améliorer au prochain match. Parfois, on pense qu'une série noire s'achèvera vite ou qu'il sera facile d'en sortir, mais parfois, ça prend plus de temps. Je n'abandonnerai pas. Je veux être ici et dans la situation qui est la nôtre, on doit le faire. Je ne veux pas décevoir les gens au club, les supporters, les gens qui aiment le club.
Voilà, Pep Guardiola, donc avant Leicester ce soir, match évidemment important. Il y en a un autre qui est dans le dur, hein, c'est Haaland qui met plus un temps dans l'autre.
La scène d'automutilation à laquelle on a assisté devrait quand même faire peur à tout le monde et peut-être même à ses dirigeants. C'est qu'à un moment donné, quand on arrive à te faire mal à ce point, peut-être qu'il faut lui dire écoute, stop, on arrête.
C'est ce que dit effectivement, par exemple,
Guardiola,
sur Twitter.
C'est quand même certainement le plus grand entraîneur de l'histoire et moi je préfère les entraîneurs qui sont passionnés et
pour sa santé aussi, Marion.
Très mal leur défaite. Mais oui, mais tu peux pas changer quelqu'un profondément. Le problème qu'a Guardiola aujourd'hui,
pas un qui saute d'une fenêtre pour lui dire écoute merci mais tu...
il n'a jamais connu la défaite. C'est quelqu'un dans tous les clubs où il est passé, il a tout le temps joué. Mais Bayern il fait 3 demi de Ligue des Champions.
Oui mais il perd.
En train d'être 8e ou 7e au championnat, c'est quelqu'un qui a connu fondamentalement la victoire et les 3 demi de Ligue des Champions, il perd contre sur 3 clubs espagnols. C'est un entraîneur qui fondamentalement est habitué à gagner et à gagner beaucoup. Énormément. Et s'il gagne pas, c'est le deuxième ou troisième.
Il gagne plus,
Là, le problème, c'est que il est dans une situation qu'il n'a jamais connue. Donc, il est novice en termes de sa capacité, lui, à ingurgiter ces défaites-là. Et donc, ses réactions personnelles envers des défaites qu'il considère inacceptables. Dans cette période qui est complètement nouvelle pour lui, qu'il ait des réactions qui soient, impulsives et donc excessives. Oui, c'est logique parce que ça va avec son personnage.
Mais encore une fois, c'est
ce qui l'a fait gagner. C'est ce qui profondément l'a fait gagner pendant tant d'années.
Bon,
il faut juste qu'il arrive à inverser la tendance.
Voilà, donc la victoire une nouvelle fois de Ludovic Duchesne. Non, t'avais perdu hier quand même.
Non, j'ai gagné à chaque fois.
Ah bon ? Tu gagnes à chaque fois que tu viens ?
Moi, je crois.
Ah oui.
Bon. Je peux le dire ou non ? Je sais pas.
C'est Pep ton surnom ?
Et oui, la team virable qui reste en tête, 53%, 47% pour la team invirable sur cette question, sur ce bras de fer. Donc bravo Ludo. Et désolé pour les autres, mais vous aurez de quoi vous rattraper, vous inquiétez pas dans cette émission. Les grandes gueules qui reviennent dans un instant avec la punchline, tiens, de Nikolaï Davydenko, le tennisman russe, enfin l'ancien tennisman, qui estime que l'égalité salariale homme-femme en tennis, c'est injuste. Voilà ce qu'il a dit. Est-ce qu'il faut imposer cette égalité dans le sport, dans tous les sports? On vous attend 32-16 pour nous rejoindre. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
De retour dans les grandes gueules du sport, il est 10h26, Marc Madiot, Sarah Pitkowski, Marion Bartoli, Ludovic Duchesne en direct jusqu'à midi avec dans un instant les GG contre-attaque. Vous le savez, elles vous ont proposé un débat et il faut choisir quel débat vous préférez. Il faut aller voter sur le compte X des grandes gueules du sport. Et pour l'instant, on va faire le point avec vous sur ces débats. Encore pas mal d'incertitudes. Hein. Pour l'instant, en tête, décidément, Ludovic Duchesne pour son débat autour du Paris
FC. Bon, bah moi je vais y aller. Hein.
Peut-il devenir le plus grand club français?
Il y a une émission la semaine prochaine, je ne suis pas prévu. Et à qui je peux donner ma contre-attaque?
Attends, elle n'a pas dit en quelle position tu étais.
Ouais, attends. En plus, 36% pour l'instant pour Ludovic Duchesne, mais ce n'est pas gagné. Tu es deuxième.
Ah, à combien?
29%. Ouais. Alors là, faut y aller.
Ouais,
voter pour Sarah pour son débat sur Fourcade. Oui, j'ai déjà voté pour Sarah. Normalement, j'ai pas le droit, mais bon, je me suis permis.
Tu peux revoter?
Non, je peux pas deux fois. Je vais faire voter toute la famille sur Martin Fourcade. Et puis en troisième position, c'est Marc Madiot, 25% sur Van der Poel qui est au départ des crosses. Est-ce qu'il est bling bling Van der Poel? Vous pouvez encore faire gagner. Marc, Marion part d'un peu plus loin avec son débat sur Djoko
et
Murray.
Très grave, tu sais.
Non,
c'est pas très grave.
10%. Mais tu peux faire aussi appel à des amis pour voter pour toi. Hein. C'est encore possible.
Là, beaucoup d'amis. Hein. Appel à
là,
beaucoup
il va
d'amis.
Falloir énormément.
Tout
là.
Peut changer.
On peut appeler Djokovic.
Tout peut changer. N'hésitez pas. Allez voter. Vous avez encore le temps. Mais d'abord, c'est l'heure dans les grandes gueules de la punchline et elle est signée de l'ancien tennisman le russe Nikolaï Davydenko.
RMC, la punchline GG.
Les joueurs travaillent trois fois plus que les joueuses pendant les grands chelems, donc c'est injuste de les payer autant que les femmes. Elles ne jouent pas de match en 5-7. Serena Williams a remporté des grands chelems en perdant seulement 10 jeux sur le tournoi. Elle a gagné avec des 6-0, 6-1, 6-2 sans même transpirer ou se sentir stressée.
Merci Siri pour donc la traduction et nous avoir donné ces mots de Nikolaï Davydenko qui n'est plus sur le circuit depuis 2014 mais donc qui a fait parler de lui. Il a remis en cause donc l'égalité salariale, vous l'avez entendu, entre les hommes et les femmes et notamment le prize money qui est en vigueur dans les grands chelems en tennis qui est identique pour les femmes et les hommes dans les grands chelems et il a mis un petit tacle également à Serena Williams, vous l'avez entendu. Alors, vous allez bien sûr pouvoir réagir à ce qu'il a dit. Mais je vous pose cette question, les GG. Est-ce qu'il faut imposer l'égalité salariale dans le sport? Oui ou non? Marion Bartoli.
Oui, surtout en tennis.
Marc Madiot.
Non, parce que...
Non.
Non parce tout, que. Tout simplement parce que c'est un business et il y a un rapport qualité-prix.
Ludovic Duchesne.
Bah, plutôt oui quand c'est possible, mais plutôt oui.
Sarah.
Non, parce que c'est pas possible tout le temps, en fait.
Ben oui.
Ah. Lorsque c'est possible. Ah. Ouais,
mais moi, je me demande s'il faut l'imposer.
Mais non, non.
C'est ça la grande question. Alors, je rappelle juste que dans les grands tournois du Grand Chelem, les prize money sont équitables pour les deux vainqueurs.
À tous les tours.
Voilà. Et en 2024, par exemple, c'était 2,3 millions d'euros à Roland-Garros pour les garçons, pour les filles. 3,2 à Wimbledon et à l'US Open. Et puis 1,9 à l'Open d'Australie. Et donc, ça a été imposé. C'est ça que je veux dire, c'est que
c'est imposé, non. Il y a eu une volonté.
Oui.
Ça n'a pas été imposé par qui que ce soit. Les grands chelems font partie d'une organisation
imposé,
qui sont là.
Non. Dire, voilà,
oui, oui. C'est-à-dire il y a eu un phénomène. Il y a eu un phénomène. Il y a une pression. Il y a une pression ambiante qui a fait que certains tournois du grand chelem se sont mis à égalité.
Mais ils avaient les moyens.
Les moyens, ils les ont. Alors, je vais te dire, pour les grands chelems, le pourcentage des recettes d'un tournoi du grand chelem, ça dépasse à peine 25% qui est remis au prize money. Donc, s'il devait y avoir un lock-out dans le tennis, ça mériterait d'être fait aussi. Mais il faut savoir que l'US Open, cette égalité, elle date d'il y a très longuement, ça fait 50 ans déjà que l'US Open a pris ce parti de mettre l'égalité salariale.
Les autres tournois,
exactement. Donc quand ça n'a pas été imposé, c'est-à-dire quand je dis il y a une volonté, il y a eu des levées de boucliers pour
après,
ça.
Après, ce que dit Davidenko, c'est évidemment n'importe quoi. Quand il parle que les joueurs travaillent plus que les joueuses, c'est vraiment ridicule. Ils travaillent évidemment autant que les joueurs. Et quand il parle de Serena Williams qui met des 2-3-3, ça me fait rigoler parce que quand je me rappelle de Nadal et de ses scores à Roland Garros et qui mettait des 3-2-0, des 0-1-3 et c'était exactement la même chose. Donc non, il a tout faux, je pense.
Oui, ça peut pas se réduire à ça. Donc juste pour finir mon argumentaire, je pense que pour certaines équipes nationales, je pense que c'est des choses qui peuvent être faites. C'est-à-dire qu'il y a une volonté d'une fédération de dire les primes pour les équipes féminines et masculines sont les mêmes. La Fédération française de handball a pris ce parti-là.
C'est l'exemple à suivre.
C'est l'exemple à suivre. Ils ont suivi les pays scandinaves. Après, quand tu parles de ligues professionnelles, comme ce sont des ligues qui sont féminines et masculines, comme les revenus ne sont pas les mêmes, c'est pas possible à faire en réalité. C'est pour ça que ça peut pas être si systématique.
Mais après, je te donne la parole, Marion, mais sur le foot, puisque tu parles du foot, les primes ont augmenté pour les joueuses de l'équipe de France de foot, mais on est encore très très loin du niveau masculin, parce qu'en fait
je peux te répondre là-dessus, c'est assez simple,
c'est le même pourcentage.
Non, mais alors pour le coup en France on a du retard, mais dans certains pays l'égalité existe déjà, par exemple aux États-Unis, les joueuses touchent pareil que les gars.
Le foot féminin.
Au Brésil, dans plein de nations, au Brésil pareil, les joueuses touchent pareil. En Australie carrément, dans le championnat, c'est même pas en équipe nationale, les gars touchent pareil que les filles. Là, ils ont fait encore plus fort les Australiens, le Pays-Bas, la Finlande, la Norvège. Donc voilà, dans le foot féminin, au niveau des nations, ils sont arrivés justement à mettre les salaires au niveau des joueurs. Donc c'est possible.
La réalité, c'est qu'ils font un pont commun. Ils font un pot commun et il y a une rétribution. C'est pour ça que je dis dans les équipes nationales, c'est possible, mais pas dans les ligues professionnelles.
Alors, Gianni Infantino, d'ailleurs, a dit l'objectif ultime, c'était justement d'obtenir l'égalité des paiements pour les Coupes du Monde masculines et féminines en 2026 et 2027, que une joueuse de l'équipe de France
dans la caisse,
féminine gagne autant.
Tout dépend ce qui rentre dans la caisse.
C'est pas la même chose. Voilà. Donc, en gros, les filles ne seront jamais autant payées que les garçons.
Ça dépend. Il y a des disciplines où ça peut être l'inverse.
Oui. Lesquelles, par exemple?
Par exemple, moi, quand on regarde l'athlétisme, alors je sais pas comment ça marche les parachutes, mais il y a des filles qui gagnent plus que des garçons.
T'as dit non, toi, quand même. T'as dit non,
parce que c'est lié au business. En fait, tout est un rapport de ce qu'on rentre comme monnaie dans le sport et dans les différents sports. Les sports ne sont pas tous à égalité les uns envers les autres. Ça se saurait si c'était le cas. Oui. Si on était tous au niveau du football, on pourrait parler des d'égalité. Mais aujourd'hui, suivant le sport que tu pratiques, il y a des différences de rémunération, il y a des différences de business qui s'installent parce qu'il y a une plus grande notoriété, une plus grande
médiatisation
de droit télé. C'est ça en fait qui fait le marché. C'est ça qui fait qu'in fine, dans certaines disciplines, les femmes vont peut-être être mieux rémunérées et dans d'autres, ça va être
mais c'est rare. Le tennis féminin est le sport féminin le plus diffusé au monde. En tout cas, le sport le plus diffusé
au
monde.
C'est celui qui se rapproche le plus des hommes en fait.
Ouais, alors que sur les grands chelems, parce que dans les autres tournois, l'écart est conséquent.
Comme le dit Sarah, on peut décréter, par exemple, sur la Coupe du Monde de foot,
mettre
dans un pot commun les droits du foot masculin plus les droits du foot féminin, qui sont évidemment pas les mêmes. Et après, tu répartis de façon égalitaire.
Oui, mais parce que les recettes rentrent au même endroit. Ah oui. Mais un tournoi féminin qui se trouve à l'autre bout du monde, lui, il va négocier ses droits télé et ça va être ses partenaires pour ce tournoi féminin. Donc, je ne vois pas comment, s'il n'a pas de sponsor assez important pour reverser le même prize money qu'un autre tournoi.
Est-ce qu'il faut l'imposer? Est-ce qu'il faut trouver une solution?
On peut pas l'imposer. Bon. Si les revenus sont pas à la hauteur, on peut pas l'imposer.
Toi, tu as dit oui quand même.
Pour moi, je vais rester encore une fois dans l'exemple du tennis parce que c'est un exemple qui est très clair. Billie Jean King a été celle qui a fondé la WTA, donc le circuit féminin de tennis. Au départ, les filles n'étaient pas payées pour jouer au tennis. Ça a été une bagarre absolument énorme. Effectivement, Billie Jean King étant américaine et ayant un poids absolument considérable aux États-Unis, puisque le complexe où se joue l'US Open porte son nom, a été capable de demander et donc de faire vraiment une levée de bouclier et de forcer l'US Open à dire le tennis féminin a autant sa place que le tennis masculin et donc la répartition de l'argent distribué aux joueurs doit être égale, qu'elle soit féminine ou masculine. Les autres du Grand Chelem ont fini par suivre et ça a été une immense avancée dans le tennis. Et j'aimerais quand même rappeler à Nicolas et Davidenko que quand Federer en 2007 il gagne Wimbledon sans perdre un set en mettant que des branlées du premier au dernier tour comme il le fait à Wimbledon en 2017, le taux horaire passé sur le terrain, je pense qu'il devait être à peu près égal à celui de Serena quand elle mettait des branlées qu'elle gagnait ses tournois du Grand Chelem. Et qu'il y a quand même des matchs de filles qui ont dépassé les 4 heures, notamment Sara Sorribes-Tormo qui est une joueuse espagnole qui est spécialiste effectivement d'images très longs. Il y a eu Francesca Schiavone contre Zetana Kuznetsova à l'Open Australie qui a été un match qui a duré plus de 4h40. Donc des matchs extrêmement longs dans le tennis féminin, il y en a eu énormément. Et des matchs extrêmement courts dans le tennis masculin, il y en a eu aussi. Maintenant, l'avancée ultime qu'on a obtenue dans le tennis, c'est effectivement pour les 4 mois du Grand Chelem qui génèrent globalement énormément d'argent parce que ça attire énormément de monde et que les gens viennent avec autant de plaisir regarder une finale d'un US Open féminin ou une finale d'un US Open masculin ou à Roland-Garros, la même chose, que le price money distribué soit identique pour les femmes et les hommes, mais heureusement qu'on en est là en 2024. Je suis désolée, Nicolas Davidenko, il a complètement tort, mais du début jusqu'à la fin de sa phrase et les exemples qu'il cite, ils sont absolument mais ridicules. C'est ridicule. Maintenant, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'effectivement, il y a des sports où il y a un prisme plus orienté sur la partie masculine, où les hommes génèrent un business et un revenu qui est nettement plus important, effectivement, malheureusement, à mon grand désarroi que les filles, et que là, la répartition égale, qu'elle soit compliquée à mettre en place, je suis complètement d'accord avec Marc. Mais dans le tennis, qui est vraiment notre sport, et on sait très bien avec Sarah, on sait aussi qu'il y a des stars aujourd'hui comme Coco Gauff, les price money et l'argent qu'elle a touché de ses sponsors ont été révélés par Forbes. C'est des sommes qui sont considérables. Les gens sont attirés par des joueuses comme ça. Elles génèrent beaucoup de business. Les jeunes s'identifient à elles, ont envie d'être comme elles. Elles donnent l'envie engagée, à des jeunes américaines ou d'autres, ou d'autres jeunes filles à travers le monde de prendre une raquette et de jouer au tennis. Que ces filles-là soient autant payées les hommes. Et heureusement. Non mais franchement, ça en devient ridicule maintenant à chaque fois de faire ce combat en disant « Ah oui, mais elle passe moins de temps sur le terrain et puis alors elle joue moins de 7, alors c'est… » Non mais…
Puis bien David Eko,
c'est bien.
Ridicule. Mais, Marc, déjà qu'il était chiant pour faire avoir l'accent,
tu peux le faire avec l'accent russe.
Non mais sans déconner.
Marc, juste avant de prendre Jean-Luc qui a fait le 32-16 sur cette question, comment ça se passe dans le vélo d'ailleurs? Parce que on voit d'ailleurs qu'à la FDJ, il y a pas mal de vedettes du vélo féminin, mais elles sont pas aussi bien payées que les hommes, j'imagine.
Bah, pour l'instant, elles sont en progression, ça progresse, mais en fait, tout est lié à l'aspect purement business d'un sport.
Mais c'est le même sponsor.
C'est pas une histoire de sponsor, c'est une histoire d'équilibre de marché. C'est comme la bourse, il y a un marché et il y a des gens qui investissent.
Ouais, le marché. Et si on suit le marché, on y arrivera. Enfin, le prix de monnaie et les rémunérations sont toujours en dessous.
Regardez les JO, la gymnastique. On a plus parlé de la gymnastique féminine que de la gymnastique masculine.
Oui, mais il n'y a pas de prize money. C'est l'image de Simone Biles qui fait qu'elle se génère elle-même.
Oui, mais
une image.
Ça montre bien qu'on peut, dans certains sports, avoir l'inverse de ce qu'on a chez
les... Mais tu ne gagnes pas l'argent par rapport à ton résultat.
Aujourd'hui, il y a plus d'argent dans le cyclisme féminin qu'il n'y en avait il y a quelques années passées.
Oui.
Mais il n'est pas encore au niveau du masculin pour une raison.
Il ne le sera jamais.
Mais il le sera peut-être, on n'en sait rien, tout dépend de la.
Ce monde alors.
Comme ça se développe bien, du
développement économique du tour féminin.
On va se dire la vérité sur le Tour de France masculin et féminin. C'est quand il y a un sponsor qui arrive sur le Tour de France masculin, on lui dit c'est bien, mais on va t'imposer d'être sur le Tour de France féminin. Il dit pas, au fait, je vais arriver sur le Tour de France féminin. La vérité vraie, c'est ça.
Pourquoi pas? Alors,
je peux te le dire.
Il y a eu un appel d'air. Il y a 3-4 ans avec le retour du Tour de France féminin, il y a eu un appel d'air.
Oui.
Qui a été, assez facile et, un appel d'air qui n'a pas coûté trop cher au départ.
Mm-hmm.
L'appel d'air s'est fait sur un coût relativement limité d'accès au Tour de France féminin.
Oui.
Mais là, aujourd'hui, on commence à se rendre compte d'une chose, c'est que le tour féminin et les équipes féminines montent en gamme de budget. Et c'est le point d'équilibre qui va faire que ça va se stabiliser ou pas.
Mais les sponsors qui investissent sur le Tour de France masculin ne viennent pas que sur le Tour de France féminin. On les redirige, on les reflèche 98%.
Équipes féminines.
Non, là je te parle de l'organisateur.
L'organisateur, lui, il organise. Il fait son business par rapport à l'organisation. Pourquoi le Tour de France féminin avait disparu à une époque? parce qu'il n'était pas rentable.
Oui, mais il n'est pas beaucoup
plus. Comme chez les hommes, si, je pense qu'aujourd'hui, le tour féminin gagne sa vie.
Ça se développe, c'est une chose, mais en fait.
Comme la Visma, comme la
FDJ. Oui, mais ça se développe sur le plan sportif, mais sur le plan économique, c'est grâce au Tour de France masculin que le Tour de France.
Je crois qu'il y a un vrai engouement. Regarde un peu le monde qu'il y a sur le bord des routes.
Mais c'est un sport gratuit. Là, je te parle de l'équipe financière d'un organisateur.
Personne dans les stades.
D'un organisateur privé qui organise un Tour de France féminin. Le Tour de France féminin tout seul ne génère pas des recettes et des bénéfices pour exister. C'est parce qu'il y a l'aspiration du Tour de France masculin.
C'est ce que j'explique, il y a un refléchage.
Il y a un refléchage.
Il y a aussi le fait que c'est un vrai spectacle, que le dernier Tour de France féminin a été fantastique. Ça s'est joué à 4 secondes. Donc les filles sont de plus en plus compétentes.
Et de plus en plus diffusées. Et on suit ça de plus près encore. Mais c'est vrai que Demi Vollering, qui est dans l'équipe FDJ, on se dit, elle pourrait toucher autant qu'un garçon de la FDJ.
Elle touche autant que certains garçons de la FDJ.
D'accord.
Mais elle touche pas ce que touche Pogacar.
Oui,
c'est
évident. Mais bon, déjà, elle touche parfois autant que les garçons, Demi Vollering. Jean-Luc est avec nous au 32-16. Bonjour Jean-Luc.
Oui, bonjour. Bonjour à toute l'équipe.
Bonjour.
Et bonjour à Marion. Bravo pour la reconversion. C'est fantastique l'émission. Alors, par contre, là, je suis pas du tout d'accord avec Marion.
Ah, en revanche, elle n'est pas d'accord avec toi.
Voilà. Donc, pour moi.
C'est bien, d'ailleurs, de passer de la pommade à Marion.
Pour moi, c'est simple. C'est un spectacle. Et comme dans tous les spectacles, si ça marche, il y a du monde, on gagne de l'argent. Si ça marche pas, il y a aucune raison que tout le monde gagne la même chose. Quand une pièce de théâtre marche, elle fait 300 représentations. Si elle marche pas, elle en fait une dizaine. Et ben pour le tennis et pour tous les sports, c'est pareil. Aujourd'hui, il y a aucune raison, étant donné le spectacle proposé. Je suis désolé, Marion, on voit très beaux matchs féminins, c'est vrai, mais c'est quand même très très loin de la qualité de ce qu'on voit chez les garçons. Pour le vélo.
Sur certains matchs, on va dire qu'il y a
10% de grands matchs féminins et il y a 90% de grands matchs masculins. Je suis désolé.
Il suffit de voir les audiences, Marion, pour répondre
à Jean-Luc. Mais vas-y, Jean-Luc.
Il y a des grosses audiences sur les matchs féminins.
Oui, bah, on est très très loin des finales masculines. Je suis désolé, Marion.
L'audience de Coco Gauff quand elle gagne US Open était meilleure que l'audience masculine de la finale de l'US Open.
Oui, parce que c'est Coco Gauff, bien sûr.
Ah bah oui, mais
je suis d'accord, mais c'est un cas isolé. On peut pas faire une généralité d'un cas isolé. Pour le vélo, pour répondre à Marc, là c'est encore différent parce qu'aujourd'hui le vélo, il fait recette, il y a du monde. Ça intéresse les gens, il y a beaucoup de monde qui vient. Pour le foot, c'est une catastrophe. Comment voulez-vous payer les filles de la même façon? Ça n'intéresse personne.
On parle de l'équipe de France, Jean-Luc. Je m'excuse, mais on parle pas des clubs. On parle en équipe de France.
Ils n'ont pas réussi à remplir un stade de 15 000 places. Et franchement, le spectacle n'est pas terrible. Faut être honnête, ça évolue.
Pas très sport féminin quand même, Jean-Luc, non? C'est pas ton truc. Hein.
Surtout, il n'y a pas eu un record sur un match du Barça féminin.
Je regarde tous les matchs féminins. Je suis passionné de sport en général et je regarde tout. Mais pour répondre à la question, je suis désolé, c'est un spectacle. Ça fait recette, on paye. Ça fait pas recette. C'est comme dans tout.
Le tennis féminin, surtout en dehors du Grand Chelem, fait de très belles recettes.
Bon,
et les gens adorent venir
comme
voir
le football féminin dans certains pays, Marion l'a esquissé. Quand tu vas en Espagne, en Angleterre, ou en Italie, Jean-Luc, tu as des fois 20-30 000 supporters pour voir des matchs de championnat féminin et c'est d'un très très bon niveau.
En tout cas, je ne suis pas du tout là-dessus.
On va les compter sur les doigts d'une main dans ces pays-là.
Maintenant ça fait le plein, les matchs de foot féminin. Alors pas en France, c'est vrai, pas suffisamment. Il n'y a pas eu suffisamment d'argent injecté en France pour le football féminin, ça c'est très clair. Mais en revanche, c'est vrai qu'on a
vu de créer une ligue
notamment Wembley et puis en Angleterre et puis en Espagne aussi des stades.
Ça cartonne.
On va remercier Jean-Luc en tout cas d'être passé. Courageux Jean-Luc de vouloir affronter Marion. Marion Bartoli et Marc Madiot. Merci Jean-Luc.
En tout cas, bravo à vous pour l'émission, elle est vraiment extra.
Merci beaucoup Jean-Luc, merci, et belle Jean-Luc. Fin d'année à toi.
Bon réveillon et bonne fête.
Restez avec nous, on revient dans un instant. C'est un large débat, je pense qu'on l'aura encore en 2025, ce débat-là. Les grandes gueules qui reviennent avec les GG qui contre-attaquent. Vous avez encore quelques minutes seulement pour voter pour votre débat préféré. Si vous voulez continuer à faire gagner Ludovic Duchesne, il va avoir la grosse tête après. C'est maintenant, sinon vous pouvez miser sur les autres. Allez, à tout de suite, on revient dans moins d'une minute sur RMC.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Et oui, c'est la dernière de l'année 2024. Après, on va tourner la page et aller en 2025. Ludovic Duchesne, Sarah Pitkowski, Marc Madiot et Marion Bartoli sont là pour cette dernière. Et dans un instant, justement, on va se projeter sur le cyclisme en 2025. Est-ce que ce sera une grande année pour le cyclisme français? 32-16 pour nous rejoindre dès maintenant. Mais d'abord, vous le savez, à 10h48, eh bien, ce sont les GG qui prennent les commandes de l'émission.
RMC. Les GG contre-attaque.
Et oui, les grandes gueules du sport qui vous ont proposé un débat. C'est vous qui avez choisi le débat préféré. Résultat désormais avec Marion Bartoli. Quatrième et dernière, malheureusement, Marion. Mais il y avait 10% tout à l'heure, il y a 13%. Je pense que si on avait fait l'émission jusqu'à 18h, peut-être qu'on aurait pu gagner, hein, avec ton débat sur Djokovic et Murray, cette association. Non, mais on pourra le retenter une autre fois, t'inquiète pas. Oui. Troisième place pour le débat autour de Van der Poel, proposé par Marc Madiot. Tu t'es bien battu, Marc, 23%. Van der Poel qui sera aujourd'hui à Besançon. Hein.
Il sera aujourd'hui à Besançon, il a dû prendre
événement.
Le jet. Événement, parce qu'il se déplace peu hors de Belgique.
Alors comment il a fait pour arriver à Besançon?
Il a pris un petit jet, tout simplement. Ah ouais, il a laissé la Lamborghini à l'aéroport et il est arrivé en jet. Et il va prendre le gros chèque en ressortant.
Ouais, mais en même temps, il gagne.
Une heure de spectacle garantie.
Voilà. Donc à suivre aussi aujourd'hui, Van der Poel à Besançon. Et puis alors en deuxième position, malheureusement.
Mais juste une petite aparté, oui, pour Van der Poel. Les temps changent parce que son grand-père Raymond Poulidor se déplaçait pendant des dizaines d'années avec la même Mercedes.
Ah oui.
Ah quand même.
Oui, quand même, le petit-fils lui en jet.
Et oui, le monde change. Sarah, deuxième, avec 29%.
Deuxième.
Bah oui, c'est. Voilà.
J'ai perdu la
poulie d'or du
tennis. Ah oui, t'es deuxième.
Oui, non, mais j'étais à 27.
Non, t'es à 29. Ah.
Oui, mais tout à l'heure, j'étais à 27.
La poulie d'or. Oui, donc t'as gagné deux points.
Ouais, je te confirme. Hein.
T'étais pas loin, dommage.
Je te confirme.
Martin Fourcade, je suis pas sûr qu'on en reparle en 2025 de cette histoire.
Peut-être qu'il faut peut-être faire venir. Non, mais il faut peut-être faire venir Martin au micro. Voilà. Peut-être que là, je réussirais.
Ça peut être
Martin, si tu nous écoutes, si tu pouvais venir autour Allez, du micro des
Martin,
grandes gueules.
Si tu nous écoutes, là, 10h50, appel. Avant midi, on fait plaisir à Sarah, s'il te plaît. Merci. Et donc, le grand vainqueur. Le back-to-back, comme on dit, Ludovic Duchesne, il a déjà gagné hier, il remporte ses GG contre-attaque avec son débat, et tu vas pouvoir nous en parler. Le Paris FC peut-il devenir le plus grand club français, c'est ça,
ouais,
le débat
dans un avenir proche.
Carrément.
Il y a un peu de chemin quand même.
Ouais,
il y a
du chemin. Allons-y, on t'écoute.
Non, non, mais il faut rappeler qu'en 70, le Paris Saint-Germain et le PFC, c'était la même chose. Mm-hmm. C'était le même club. Ça a duré que 2 ans, mais c'était le même club avant de se séparer. On attend un deuxième club parisien depuis extrêmement longtemps. Vous allez me dire, il y a le PFC, il y a le Red Star. C'est vrai. Mais on attend un deuxième grand club parisien dans la capitale, puisque ça existe dans les autres grandes capitales. Ça n'existe pas en France. Et là, on a l'impression que ça y est, ça peut démarrer. C'est la famille Arnault qui a décidé d'investir. C'est la plus grande fortune de France, avec Pierre Ferracci qui est aussi le président en ce moment du Paris FC. Il y a toute une équipe, et ce qui me plaît dans ce projet, il y a Red Bull qui est là avec Jürgen Klopp qui a son avis, et la direction sportive sera prise, si j'ai bien compris leur conférence de presse, par Red Bull justement. Donc Jürgen Klopp pourra jouer un rôle très important. Mais ce qui est vraiment intéressant dans ce qu'ils ont dans leur manière de communiquer, c'est qu'ils veulent faire du centre de formation du Paris FC le meilleur de France. Et quand on parle du vivier en Île-de-France, il n'y a qu'à regarder les joueurs de l'équipe de France, 80% viennent d'Île-de-France. Donc il y a vraiment quelque chose à faire. Le Paris Saint-Germain souvent passe à côté de ses joueurs, ou en tout cas ne les retient pas. Et là, je vais faire plaisir à Marion, comme Adrien Rabiot qui est passé par le Paris Saint-Germain, qui est un Parisien, et finalement qui joue à Marseille. Le Paris Saint-Germain n'a pas su le retenir. Je pense que le PFC veut absolument retenir ses joueurs parisiens, les faire évoluer
habitués. L'objectif, c'est d'en avoir 6, 7, 8 dans cette équipe. Ils vont injecter entre 100 et 200 millions. Est-ce qu'ils peuvent arriver? Ils sont deuxième pour l'instant de Ligue 2. Mm-hmm. Alors ça, c'était pas prévu. Mais pourquoi pas? C'est l'occasion qui fait le larron.
Il y a quand même un petit souci.
Dis.
Parce que avant qu'ils n'annoncent l'arrivée d'argent massif, ils étaient premiers. Et depuis qu'il y a les nouveaux actionnaires, ils sont deuxièmes.
Ouais. Oui, il faudra être dans les deux premiers pour monter directement ou jouer les barrages. Mais c'est Stéphane Gigny, hein, l'entraîneur de cette équipe pour l'instant. Mais ce qui est sûr, c'est que ils ont cet objectif. S'ils montent, c'est cadeau, ils vont gagner du temps. S'ils montent pas cette année, je pense que ils disent vouloir injecter entre 100 et 200 millions. Ils monteront avec ces moyens-là. Ouais, il y aura pas de souci.
Je trouve que, c'est très bien. Enfin, je trouve ça vraiment top qu'il y ait un deuxième club qui veuille, en tout cas, qui veuille concurrencer le PSG, même si dans la concurrence, ça va prendre des années. Cependant, il y a quand même des freins immédiats. C'est un, où vont-ils jouer? Parce que quand tu as des velléités comme celles qui sont annoncées par le groupe LVMH, il faut qu'il y ait un stade qui soit à la hauteur.
Le Parc des Princes qui sera libre et sans club.
Oui, mais enfin, dans combien de temps il sera libre, Parc des Princes? On parle de 5 à 10 ans. Et puis un centre de formation, oui, mais encore une fois, où?
Alors, parce que quand tu vois... qu'il est hors ligne. Pour l'instant, ils ont construit des terrains d'entraînement. Ils ont construit
quand tu vois celui du PSG qui vient de sortir de terre avec les années qu'ils ont mis à investir.
Il n'y a pas d'équivalent avec le Paris Saint-Germain.
Oui, mais pour obtenir ces objectifs, ou en tout cas pour aller vers ces objectifs, il va y avoir des investissements qui sont beaucoup plus que 100 à 200 millions, parce que 100 à 200 millions, c'est l'équipe. Mais alors, un stade plus un centre d'entraînement, ma question c'est où est-ce qu'on va le faire et sous combien de temps
pour les joueurs?
Ils en ont parlé, et puis les joueurs évidemment, mais pour l'instant donc ils pensent débuter leur aventure à Charletti.
C'est un courant d'air.
À Jean Bouin.
Oui,
pourquoi pas, au Parc des Princes, mais ouais. T'as raison Sarah, il leur faudra évidemment un autre stade.
C'est ça qui
parce que là, je vais rejoindre Marc, c'est aussi ça sera évidemment du business. Oui, mais en tout cas dans la politique sportive, business, c'est intéressant.
Non, mais
en parlant de business, moi j'ai quand même un petit doute.
On parle beaucoup de business ce matin Marc, hein.
Ouais. Bah oui, je vois, peut-être parce que c'est la fin de l'année, j'attends les primes.
Il y a les comptes à faire.
Non, j'ai quand même une petite inquiétude avec l'arrivée de Red Bull.
Ah bon? Au contraire,
ils sont
ultra
minoritaires.
Oui,
mais non.
En Allemagne, oui, mais non. Vas-y.
Parce que quand on regarde le fonctionnement de Red Bull, ils sont dans beaucoup de sports. Au départ, ils mettent un peu d'argent, mais après, ils viennent surtout pour en gagner. Et on voit dans le foot, ils saupoudrent dans un certain nombre de clubs et ils vont faire tourner les joueurs.
Oui.
Entre par rapport à ces clubs-là. Ouais. Et je suis pas sûr que pour le Paris FC, ce soit in fine la bonne solution.
Alors, c'est une association avec Red Bull. Hein. Ils ne sont pas majoritaires. Donc, ils viennent peut-être pour leur culture.
Non, oui, mais ils vont faire tourner des joueurs. Est-ce que ce sera les meilleurs qui viendront à Paris ou est-ce qu'ils viendront prendre les meilleurs de Paris pour les mettre ailleurs?
Ça a fonctionné avec beaucoup de jeunes justement qui venaient de France et ils ont fait
ouais,
ça.
Oui, mais ils saupoudrent des jeunes. En Formule 1, ça marche bien, mais ils attirent d'autres sponsors qui financent l'équipe. Et dans le vélo, ils sont en train de faire la même chose. Aujourd'hui, Red Bull va être présent sur deux équipes. Une équipe en Suisse et une équipe en Allemagne.
Mais à quelle hauteur? À égalité avec un autre sponsor? Minoritaire? Majoritaire?
Notamment sur Bora, je pense qu'ils seront... C'est très fort.
Ça veut dire que le nom, ça va être Bora Red Bull ou Red Bull Bora?
C'est Red Bull Bora en Gore. Ouais. Et il y a Tudor Red Bull.
D'accord.
Donc ça fait en deux ans, ils arrivent déjà sur deux équipes. On peut se poser des questions. Ça veut dire qu'ils vont faire tourner.
Alors c'est l'équipe d'Alaphilippe, c'est ça?
Ouais.
La nouvelle équipe d'Alaphilippe.
Bon. Et je me posais question.
Ouais. Ok.
Je fais fausse route.
Non mais il y a Klopp aussi, hein, qui est dans l'organigramme.
Qui est un super super conseiller. Il a pas vocation à entraîner. Il est là pour aller recruter des joueurs.
Il y a des joueurs qui vont passer d'un club dans l'autre. Ça va tourner.
Oui. C'est pas mal d'avoir Klopp quand même, pas très.
Ah bah oui, bien sûr.
Mais ce qui est sûr, c'est que il y a des moyens. C'est la plus grande fortune française.
Il y aura des moyens.
Donc faut pas le négliger. Et en tout cas, c'est peut-être le début d'un très très beau projet.
Alors puisque tu parlais de sponsors, on me dit sur l'appli RMC Direct Studio que Van Der Poel est sponsorisé par Lamborghini. C'est aussi pour ça.
Il change de Lamborghini à chaque course.
Il va le chercher à la couleur.
Ah,
Mais c'est normal, il va chez le concessionnaire et
en fait, il prend la voiture.
Il les fait rouler et puis après, il les revend.
Il les fait rouler et on les clés.
De plus, leur donner un peu d'argent quand même. Pas cher gratuitement.
T'aimerais bien être sponsorisé par Lamborghini.
Pour le RMC, ouais. Pourquoi pas.
Bon, allez, on revient dans un instant. Excellent débat. Bravo, hein, Ludovic, pour cette victoire. Restez avec nous, les GG qui reviennent tout de suite et qui vont passer la seconde. Et pour cette dernière émission de l'année, on va se projeter sur 2025 et notamment la saison de vélo. Est-ce que ça va être une grande année pour le cyclisme français? On vous attend au 32-16, très nombreux. On vient tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.